Alors Coluche.
Rouvrons le dossier Coluche.
Ouais, alors ça j'aimerais bien qu'on mette. On pourrait mettre le je suis à donc dans le fait d'être accusé, ce qui est très français moyen de ma part, mais n'empêche. Genre, franchement, j'étais chargé des premières saisons et tout, et il y a quand même des.
Je sais pas pourquoi t'as dit le générique de Faites Entrer l'Accusé, j'ai entendu le générique de X-Files.
Ah ouais,
je sais
ouais.
pas à quel point ils sont similaires.
Il y a une atmosphère gloomy, tu vois, qui est assez similaire. Je sais pas si là, au niveau des notes, c'est peut-être les mêmes, j'en sais rien.
Ok, on va tenter le mashup maintenant.
Ok, donc c'est Robin qui va tenter le mashup. Eh ben, bienvenue, Génération Podcast, tout le monde, hein. Ça fait longtemps.
Voilà, Génération Podcast, Génération, un podcast tous les 10 mois, c'est
ouais,
ça?
Ouais, exactement, c'est ça. Franchement, qui a besoin d'un podcast toutes les semaines, de toute façon, c'est trop. Il y a tellement de musique qui sort, vous avez
c'est
pas
vrai.
Le temps, enfin, tu vois, moi j'aime pas les podcasts où ils sont trop réguliers, parce qu'après, t'es là genre, et la musique alors, dans tout
et
ça.
Et la musique.
Hein. Quand est-ce que j'écoute de la musique, moi, dans tout ça, hein? Il y a 8 albums par semaine et 5 heures de podcast.
C'est vrai.
Et moi, je dors quand, hein? C'est pas possible.
C'est vrai qu'il te faut un petit peu de sommeil pour pouvoir écouter toute cette musique.
Hein. Ouais, de ouf. Je sais pas comment t'es censé faire. Enfin bref, re-bienvenue. Il y a le dernier épisode, du coup, c'était Covid, que j'ai pas encore fait, sorti, mais qui va bientôt sortir. J'hésite parce qu'il y a une espèce de beat qui est dégueulasse dedans, ou Krautmann. Que j'ai réécouté plusieurs fois et qui me dégoûte encore un peu plus à chaque fois.
Je me rappelle plus de Krautmann, mais j'ai eu un petit frisson dans le dos quand t'as mentionné son nom. Je crois que c'était pas, j'aimais pas trop. Ouais.
Donc je peux déjà m'excuser pour Krautmann. Déjà, on peut commencer le podcast sur ça.
Non plus plates excuses pour Krautmann.
Et désolé pour Krautmann.
C'était l'idée de Guillaume.
C'était quand
même.
Une idée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pas grand chose. Depuis, il y a eu un déconfinement.
Et là,
maintenant, on est un peu en reconfinement, mais after dark!
C'est ça, c'est...
Confinement by night.
C'est 10 foules après 21h, c'est... Il y a eu la sonnerie pyjama, maintenant...
C'est genre, confinement,
tout
mais...
Tout le monde rentre.
Make it hot. Make it a little sexier, you know?
C'est confinement, mais t'as le droit d'aller au bar avant 21h.
Je crois
que c'est ça, le...
Il me semble que... Non, parce que les bars, ils sont fermés de toute façon, en fait. Donc, t'as pas le droit.
Les bars sont fermés.
Les bars sont fermés.
Les bars sont fermés, mais les bars sont ouverts quand même.
Ouais, apparemment, ils sont un peu, j'ai l'impression.
S'ils proposent des croque-monsieur, apparemment.
Ouais.
Si t'as les croque-monsieur, tu peux rester ouvert.
Genre, nous faisons une formule avec une bière et la frite offerte. Il y a une petite frite avec votre bière. Nous sommes un restaurant, oui.
Et open bar dans les écoles primaires, ça, c'est...
Yes.
Si vous voulez votre petite binouse...
Ouais.
Allez à la cantine de l'école... de l'école Marcel Proust, allez-y.
Ouais. Je suis fasciné parce que genre, c'est vraiment un truc, un gros talking point de gaucho de base, de dire genre... Les seules choses qui veulent qu'on fasse de notre vie, c'est toutes les choses qui font un profit, il n'y a que ça qui intéresse. Toutes les autres activités hors profit, dans le néolibéralisme, n'ont aucune importance. Et là, genre, ils le disent, quoi. Genre, ils le disent littéralement, en fait. En mode, genre...
Ouais.
Toutes les interactions sociales, alors tout ce qui est vos potes et votre famille,
inutile.
Genre, mais alors vraiment complètement useless, cut that shit out.
Non productif.
Non productif, super chiant, parasitaire, please stop doing that shit. Arrêtez d'avoir des rapports humains, s'il vous plaît, qui ne rapportent littéralement pas d'argent. Genre, qu'est-ce que vous faites?
Vous allez faire quoi? Écrire un livre avec?
Ouais. Alors par contre, tout contact utile hein, et enrichissant, professionnellement et personnellement, c'est votre patron. Alors là... Tous les jours, vous devez sucer la de votre boss, très important, hein, avec ou sans masque. Super, super important d'y aller tous les jours. Hein.
Tu
et
sais
le
pas,
week-end.
Tu sais pas toute la culture qui se crée autour de la machine à café. Enfin,
c'est, ouais. Non, c'est vrai. Hein.
On retrouvera ça dans 200 ans, genre la discussion qu'on a eue au bord de la machine à café.
Un vestige, ouais. On parlait de
genre, Sharon, elle a une jupe un petit peu trop courte.
Sharon.
Ça, c'est très important.
Personne s'appelle Sharon en France. Il y a des Sharon en France.
Justement, je connais personne qui s'appelle Sharon, c'est pour ça que...
Ouais, t'as vu la jupe de Sharon ce matin?
Sharon. Je pense à Sharon Stone.
Franchement, c'est comme je pense que c'est ce qui nous a préparé aussi la shortcom Caméra Café, tu vois. Mmh. Essayer de nous faire croire que vraiment genre c'était
c'est ce qui se passe.
C'était le fun quoi, la machine à café, c'est le fun ultime, tu vois.
Ouais.
La caméra ne sortira jamais de ça.
Bruno Solo, le syndicaliste hyper chiant qui
ouais.
qui veut pas travailler,
parasitaire.
mais qui est aussi anti-fun par ailleurs.
Ouais, anti-fun. C'est un parasite parce que genre il vole des stylos, etc. Parce qu'il est aussi responsable.
Il vole des post-it, c'est vrai.
Il vole des parce qu'il c'est lui le responsable des achats.
J'avais oublié.
Je connais beaucoup le lore de Caméra Café. Attention. J'ai une BD Caméra Café chez moi, donc on déconne pas.
C'est les mêmes personnages. Est-ce que t'as un personnage de bande dessinée à l'image de Yvan Le Bolloc et Bruno Solo?
Yes, of course, bien sûr. Ouais, ouais bien sûr. Ouais. C'était toujours dans ces éditions de qui produisaient beaucoup de qualité dans la bande dessinée. C'était Bambou.
Ah oui, Bambou.
Il me semble que c'était chez Bambou ça. Je l'ai pas acheté neuf, j'ai acheté en... Il était genre à ça.
Tu l'as acheté d'occasion.
Je l'ai acheté d'occasion, ouais, genre dans une brocante, ouais. Il était genre 50 centimes, 1 euro, une brocante. Et j'ai craqué, j'avoue.
Ouais.
J'étais trop fan, c'était trop bien.
C'est littéralement un cadeau qu'on a offert au bureau.
Ouais,
il n'y a pas d'autre endroit où...
Super bon cadeau de départ, de bon départ.
Puis un enfant de 8 ans qui l'a récupéré, qui l'a lu beaucoup trop de fois par rapport à comment ça a été conçu.
Il y a vraiment tous
ça n'a pas été fait pour être disséqué de la manière dont ça a été disséqué par Guillaume 8 ans.
Il y a tous les archétypes du bureau qui sont là. Il y a genre le petit comptable avec ses petites lunettes qui fait caca dans son froc dès qu'on lui gueule un petit peu trop dessus, tu vois.
Mauviette.
Voilà, la mauviette, tu vois, la fiotte. Il y a le responsable des achats syndicaliste corrompu forcément, tu vois, qui est pas là du tout pour l'intérêt de ses salariés mais pour les intérêts de ses petites affaires à lui.
Ah,
il y a
ouais.
le vendeur porte à porte, tu vois, genre,
ah oui, vend le Bolloc, le VRP, ouais.
Bah ouais, le VRP, ça aussi la figure
indétrônable,
tu vois, genre le dragueur qui va que parler de cul et qui est débile comme un con et qui est bourré. Parfait, tu vois.
Je devrais peut-être fact-checker ça, mais il me semble que Yvan Le Bolloc est anti-masque.
Il est woke sur beaucoup trop de trucs.
Il est woke sur beaucoup trop de trucs. Mais en tout cas, ça colle complètement au personnage de vendeur en porte-à-porte. Enfin,
je sais pas trop.
Citez-moi un vendeur à porte-à-porte qui est pro-masque.
Qui est pro-masque, je sais pas. Déjà, les VRP, est-ce que ça existe, tu vois?
Ça existe
encore. Est-ce que ça existe encore? Je suis pas certain, tu vois.
Ça existe dans les sketchs de Robin des Bois et dans Caméra Café.
Ouais.
Franchement, il y a pas de...
C'est une profession qui est un peu morte, quand même, tu vois. Genre. Parce que le VRP, son opposé ultime, c'était la femme au foyer, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est de plus en plus rare aussi, tu vois, maintenant, les femmes,
ouais.
au travail, tu vois.
Au boulot.
Du coup, bah là, tu fais VRP, tu toques aux portes, t'as personne, tu vois.
Mm.
Donc, je pense que c'est un peu mort vis-à-vis de ça, tu vois. Mais le VRP, il était un peu de droite populaire, tu vois, un peu, genre, je sais pas.
Il était Coluche.
Il était... Quelle bonne transition. Il était Coluche, tu penses, Yvan? Ouais, le personnage... Honnêtement,
Coluche, il est assez impressionnant parce que vraiment, il touche à toutes les sensibilités tant que t'es un petit peu contestataire.
Il enfin, était, ouais.
Les gens d'extrême droite l'adorent.
Il l'adore maintenant. Il l'aime bien mort, tu vois. Parce qu'il le dérange moins. Il voit juste son personnage comme étant un mec qui était anti-politiquement correct et du coup, ça leur va.
Ouais.
Mais il le détestait absolument de son vivant. Genre, il le voyait vraiment comme un anarchiste bâtard, bourré, qui parlait aux drogués, etc. Tu vois, genre, Resto du Cœur, l'ami des pauvres, blablabla. Enfin, il était grave pas l'ami des flics et des militaires qui ont fini par l'assassiner.
Attends, Guillaume, qu'est-ce que tu viens de dire?
Quoi?
Est-ce que on peut aller un petit peu plus profondément dans l'analyse coluchienne?
Nous allons ouvrir aujourd'hui le dossier Coluche.
Chapitre 4 de l'affaire Coluche dans ce podcast.
Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, j'ai jamais creusé l'affaire sérieusement. C'était plus un mème pour moi, tu vois. Mais j'en savais vraiment rien. Je savais juste que tout le monde sait actuellement. Et là, j'aimerais poser une question à nos auditeurs à ce moment-là. Ouais. Et qui est une question assez... où il y aura des réponses très différentes en fonction de ton âge aussi, tu vois. Les gens de mon âge, je pense qu'on leur dit Coluche mort et ils ont absolument aucune idée même des circonstances de sa mort ou de quoi que ce soit, tu vois. Les boomers, eux, ils se souviennent de où ils étaient, tu vois. C'était leur 11 septembre.
À 100%, ouais.
Ils se souviennent de où ils étaient quand ils ont appris la mort de Coluche et ils se souviennent à peu près comment il est mort, tu vois.
C'est vrai. Je vais pas donner plus de détails parce que c'est un peu personnel, mais c'est vrai.
Donc avant de continuer, demandez genre soit à vos parents qui sont encore parmi nous, à vos membres de famille un peu plus anciens, genre demandez-leur genre à votre avis genre comment il est mort Coluche, tu vois. Et vous allez avoir un lien intergénérationnel comme ça. Vous allez enfin pouvoir discuter un peu avec vos vieux comme on le dit, tu vois. Il va y avoir un truc qui va se créer. Parce que là, d'un coup, tu vas avoir une petite étincelle dans leurs yeux, je pense. Parce qu'ils vont être là en mode genre, ah, Coluche. 86. Je m'en souviens comme c'était hier. Un drame. Une voiture, une moto. Alors, ils vont vous dire ça, ils vont vous dire une moto. Une moto qui va trop vite.
Ouais.
C'était un fou du volant. Ils vont dire, Coluche, il a battu des records de vitesse. Il a littéralement battu des records de vitesse sur sa moto.
Ouais, mais ça veut dire qu'il conduit bien, enfin.
C'était un fou. Bah ouais, mais eux, ils vont pas le voir comme ça. Ils vont voir c'était un givré, le gars, tu vois. Ils vont dire c'était un givré.
Il était marteau.
Un inconscient. Et ils ont tous dit dans les journaux à cette époque-là, c'était un mec qui fumait la vie par les deux bouts, tu vois. Un mec qui allait à fond dans tout ce qu'il faisait.
Et pas que la vie.
Et du coup, bah forcément, l'inévitable, tu vois, genre le James Dean français, tu vois, forcément, à un moment donné, bah ça passe ou ça casse, tu vois.
Ça fait beaucoup rire que Coluche soit le James Dean français. Je trouve que c'est une bonne...
C'est totalement
c'est
le James
Dean.
C'est
une bonne analogie.
Après, on en a beaucoup, il y a Balavoine aussi, avec l'hélicoptère, et un petit côté James Dean aussi, ouais, là-dedans, il me semble.
Bah c'est plus notre... Stevie Ray Vaughan qui est mort dans un accident aussi.
Notre Kobe un peu.
Notre Kobe, ouais.
Mais ouais, voilà. Donc ils vont vous dire, il allait trop vite et du coup bah il a pas vu. Genre c'était dans un virage et il y avait un camion qui s'amorçait dans une rentrée d'un camping.
Un camion conduit par.
Un camion qui a, enfin, toi tu vas doxer le conducteur du camion, quoi.
C'est dans Wikipédia au bout d'un moment, faut.
C'est dans Wikipédia, c'est vrai. Mais n'empêche que dans le livre que j'ai lu, il était censuré à chaque fois, quand même. Genre,
ah, c'est vrai.
Ils ont mis A et j'ai dû checker pour voir que le mec s'appelait. Ouais.
Mais le conducteur du camion, enfin, il a fait une interview, il a fait une grosse dépression, le mec. Enfin,
alors, il a pas fait vraiment une interview. Quand l'année du drame, il a fait un truc avant de fermer sa gueule pendant 40 ans, en fait. Il a réagi un peu devant les caméras et après, il s'est rapidement rendu compte que sa vie était allait devenir un enfer à partir de là, tu vois. Okay. Et il a fait dépression et il a quitté l'œil public et il s'est juste genre baissé la tête. Et que récemment, il y a eu une photo de lui, un journal qui disait, il est passé à autre chose.
Ok,
ça a
donc
été dur pour lui, tu vois.
Donc pour la censure plus tard, la personne qui conduisait le camion, c'était François Mitterrand.
Voilà. Et du coup, ils vont vous parler de camping, ils vont dire c'était une sortie de camping, le camion était déjà là. Donc bref, déjà, on va débunker ces deux trucs-là immédiatement. Il n'y avait pas de camping.
Pas de camping.
Absolument pas de camping.
Pas une tente, pas une caravane.
Non, non. Il y avait ce qu'on appelle une pépinière à côté, parce que je sais pas exactement ce que c'est.
Une pépinière, c'est pas un truc avec des arbres?
J'ai vu ça comme une espèce de restaurant.
Un pépiniériste, c'est pas quelqu'un qui fait les...
Je sais pas, parce qu'il parle de client comme si c'était un espèce de resto à côté. Enfin, ouais, j'ai pas trop compris si c'était mis une pépinière pas très loin.
Est-ce que c'était une pépinière de talent avec genre un Fab Lab et,
ouais.
Et un incubateur à start-up.
Et, ouais. et la personne qui est née dans cette pépinière? Emmanuel Macron.
Waouh.
Ouais. Wow. Non, mais ça va très très loin. Ça va très très loin. Bon, donc, du coup, pour le contexte, on est en 86, du coup, Coluche, il a déjà fait son truc de, il s'est présenté aux élections, etc. Il a testé, c'était l'année où Mitterrand a fini par se faire élire, évidemment. Mais lui, voilà, il était dans la course au départ, ce qui était passé un peu au début comme une plaisanterie, a commencé à devenir extrêmement real très rapidement, parce qu'il y a eu menace de mort. Il y a eu surtout un des proches collaborateurs de Coluche qui s'est pris genre 2 balles dans la nuque. Ce que Coluche a pris comme genre oh là là c'est de ma faute et c'était un règlement de compte par rapport à ça, apparemment, et ça je pense que c'est vrai, en effet c'était pas du tout lié à sa campagne, c'était une affaire de crime passionnel ou je sais pas quoi, enfin bref, aucun rapport avec la campagne, mais en tout cas les autorités ont bien fait cultiver le doute chez Coluche que en gros oh là là on sait pas, hein, peut-être que c'était quelqu'un qui t'en voulait à toi aussi, etc. Coluche il recevait des balles chez lui, bref, il finit par renoncer au truc, surtout que le truc qu'il a un peu genre fait réfléchir, c'est aussi que ce qui est parti à la base comme une blague, il y a un sondage qui est publié dans le journal du dimanche, qui le donne, alors donc c'est un sondage, hein, mais qui lui donne 16% des intentions de vote. Devant Mitterrand et devant Georges Marchais.
Yes.
Donc à ce moment-là, ça rigole plus du tout, tu vois. Ce qui est très étonnant, c'est que le jour où le sondage est sorti, ce qui est quand même un truc énorme, littéralement aucun putain de journal n'en parle. Tellement ça a été genre une onde de choc et que tellement ça a été gênant absolument, tu vois. Du coup, de ce côté-là, les gens commencent à le prendre au sérieux et ils commencent à avoir des pressions. Il drop out. Il fait plus trop de spectacles, etc. Pour un moment, il se détend un peu. Et là, on est en 86, on est pendant l'été, il me semble. Et il est entre Cannes et dans une espèce de... Il a une petite résidence. Et bref, il fait des allers-retours tous les jours. C'est-à-dire que pendant la journée, il va vers Cannes pour rencontrer ses copains, faire du flipper, du ping-pong, écrire ses sketchs, rencontrer les gens. Il ne boit pas à ce moment-là. Il est straight edge, Coluche. Absolument. Genre, vraiment, on a regardé dans son sang après. Pas un gramme d'alcool. Et en effet, tous les jours, le mec ne buvait pas un gramme. Tu vois, assez impressionnant. Et bref, du coup, il va à Cannes. Et du coup, ce fameux jour, il revient de Cannes en moto. Ils sont 6 à moto. Ils sont 6, ils y vont, ils font les allers-retours à chaque fois.
6 sur une moto. Ça, on en oui, parle Robin. Pas, on en parle pas assez, hein, parce que c'est quand même, c'est quand même très dangereux, hein.
Ouais. Ce qui a probablement c'est quand même, joué.
C'est quoi, c'est.
Dans l'accident, tu vois.
Des acrobates? Des voltigeurs? Qu'est-ce qui se passe?
Bah, ouais, c'est Coluche quoi ce délire? Était au milieu, et eux, ils étaient très comme dans
les Coluche qui était en, Coluche qui était en haut de la pyramide.
C'était safe.
C'est super dangereux. Super safe. Même s'il a pas bu, c'est quand même super dangereux.
Ouais, bref. ils avaient tous des motos. Ils avaient tous leurs motos. Donc ils reviennent et donc voilà, ils veulent revenir à leur appartement du coup en dehors de Cannes. Et sauf que sur le chemin, il y en a qui veulent genre aller à la concessionnaire moto parce qu'ils ont des problèmes de genre de roue, je sais plus quoi. Donc au début Coluche les attend, tu vois, sauf qu'au bout de ça prend un peu de temps, tu vois, au bout de 10-15 minutes, Coluche il dit bon, on a qu'à se rejoindre à la villa, moi j'en ai un peu marre d'attendre là, on se rejoint quoi. Les gars font ouais, pas de souci, on attend à la concessionnaire. Du coup Coluche part avec deux de ses potes. Ça aussi, c'est un truc que je pensais, c'est qu'il n'y avait pas de témoin, moi. Je pensais que les deux seuls témoins de l'affaire, c'était Coluche, qui était mort sur le coup, et le camionneur. C'est pas le cas du tout. Il y avait deux de ses potes qui étaient derrière.
Donc, ça, je savais pas du tout.
Ouais, il y a son pote qui est juste derrière.
Même dans le film, il se barre tout seul à moto.
Absolument faux. Genre, absolument faux. Il y a littéralement des témoins sur l'affaire, qui ont à peine été interrogés par les médias et par les flics. Mais il y a, genre, du coup, le mec qui était juste derrière lui, qui a tout vu. Et le mec était encore un peu plus loin, qui lui n'a pas bien vu parce qu'il était genre avant dans le virage, il a pas trop vu. Mais le mec est juste derrière Coluche, a vu la scène, tu vois. Donc il fait partie ouais. des témoins. Donc les témoins, c'est le mec qui a le camion et du coup ce gars-là. Et R.I.P. Coluche, malheureusement, qui a jamais pu témoigner. Donc bref, il roule. Tous les médias ont dit qu'il faisait genre, qu'il roulait comme un fou, qu'il faisait du 150 km/h, etc. Et tout le monde y a cru parce que voilà, il y avait cette histoire de record de vitesse de Coluche, etc. Pas du tout. Ses potes disent, c'était pas du tout un fou du volant, surtout qu'il roulait sans casque, le mec. Donc, il allait pas s'amuser à ça. C'était genre, au contraire, un motard qui avait conscience des accidents, etc. Et qui, même quand eux, ses potes, faisaient un peu les foufous sur l'autoroute, lui, il attendait derrière parce qu'il savait que c'était dangereux et qu'il faisait pas ce genre de fifoulerie, tu vois. Du coup, vitesse estimée, 60-70 km/h grand maximum. Une okay. vitesse qui peut être vérifiée, étant donné que sur la moto... l'impact a été tellement fort que le rapport de vitesse est resté bloqué là où il était en fait, et le compteur aussi. Donc on peut voir exactement la vitesse dans laquelle il était en fait quand il a chouk.
Ouais.
Tapé dans le truc, tu vois.
Ok, je suis pas un champion de la mécanique, donc je ne contesterai pas ces faits, mais je vais pas non plus mettre le tampon d'approbation sur.
Moi non plus, je m'y connais pas en mécanique, mais bon, c'est ce que l'auteur du coup de ce bouquin qui s'appelle Coluche l'accident dit. Tu vois. Et du coup, les deux versions. Venons en fait.
Ouais, je suis en train de monter le truc là et je me rends compte que j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit que c'était le camionneur qui avait dit ceci et du coup le pote de Coluche qui disait autre chose. Ce que je voulais dire, c'était la version des médias en fait, qui disait un truc et le pote de Coluche qui disait un autre. Le camionneur, il peut rien, il a admis qu'il avait fait une connerie et tout, genre, on laisse tranquille.
Qu'il était en train de s'engager, donc du coup pas dans un camping mais dans une espèce de décharge sauvage, c'était un 33 tonnes et le gars il avait des espèces de gravlas, donc ça a été vérifié, il y avait des graviers etc. dans son coffre et il devait tourner sur un espèce de tout petit pont qui était juste à côté et pour déverser ses gravats dans la réserve sauvage. Ouais. Donc il était en train de faire ça et que là il y a Coluche qui est arrivé, tu vois, clairement le mec allait trop vite et du coup il lui est rentré dans le phare et il est mort sur le coup, quoi. L'autre gars, ce qu'il dit, et ce qui a été retenu ensuite après dans les procès, etc., c'est que pas vraiment, en gros, lui ce qu'il dit, c'est que le camion était pas encore engagé vers la décharge, en fait. Il dit, ils ont vu le camion arriver d'en face, et ils se sont dit, bon bah voilà, on va croiser le camion normalement, le mec met pas son clignotant, ça a été aussi confirmé pendant le procès, le mec met pas son clignotant, et juste au moment où Coluche lui passe à côté, ram, il lui fonce directement dessus. Donc Coluche a à peine le temps en fait de corriger sa trajectoire, il va sur le côté, donc du coup là si t'es du point de vue de Coluche, le camion du coup est vers ta gauche et il va te couper le chemin depuis la gauche, tu vois. Du coup lui en un peu réflexe de motard, il se rend compte qu'à droite ça va pas être possible de passer, du coup il essaie de passer à gauche en mode genre peut-être tu peux passer vers la remorque, mais bref au final il se prend le phare droit en plein dans la tête et il meurt clairement quasiment sur le coup de la violence du choc, tu vois.
Ok.
Et le témoin dit que le comportement du putain de conducteur de camion était vraiment extrêmement étrange quand même. Genre que le gars, il est pas genre inquiété, il se dit pas oh là mon dieu, surtout qu'il est informé immédiatement par les proches que tu dis mais tu sais c'est le mec que t'as buté là quand même, c'est Coluche tu vois. Il a pas l'air particulièrement paniqué, il marche un peu autour, il s'approche pas du corps et surtout il veut absolument, il parle du constat, il a son espèce de truc dans la main et... Enfin bref, il a un comportement que les témoins sur le coup ont trouvé étrange. S'ensuit ensuite des longues minutes où on attend les secours qui arrivent et où personne ne on voit, il y a aucune voiture qui arrive en fait. Genre vraiment c'est une des routes des vacances qui pour à cette période-là était quand même fréquemment fréquentée. Et là bizarrement genre ils attendent les secours et il y a pas une voiture qui passe quoi. Ni dans un sens ni dans l'autre. Pas une putain de voiture qui passe. Les secours mettent un temps fou, finalement voilà, ils arrivent, le bon où il arrive enfin clairement le mec ça fait mort, ça fait coucher le mort depuis longtemps. Et puis bon bah voilà l'affaire officielle du coup des marques, le récit officiel du quoi du fait oh là là c'est un peu c'est la faute de Coluche, il allait trop vite blablabla. Donc ça c'est un peu la première partie du bouquin qui est vraiment plus qui décortique du coup.
On est juste à la première partie.
Ouais,
la merde.
Ça en gros ça okay. décortique vraiment l'accident okay. même, tu vois, il y a des schémas.
Bon, OK. Maintenant les circonstances politiques s'il te plaît.
Voilà. Alors là maintenant c'est là où on arrive dans la cuckoo hour. Là on commence à être cuckoo dans la tête parce ouais. que le gars en fait, qui écrit le bouquin, il a récupéré le projet de livre, en fait, par un mec qui a été atteint par un cancer du cerveau. Ouh. Et qui, du coup, au fur et à mesure, pouvait plus, enfin, était incapacité et n'arrivait plus à écrire ce bouquin, alors que c'était clairement, genre, un de ses derniers projets de vie et que le mec était persuadé que c'était un complot, que Coluche avait été tué. D'ailleurs. Et du coup, il le file à ce mec-là et lui dit, voilà, enfin, je te lui file tous ses cartons et démerde-toi un peu, tu vois, mais il faut que tu finisses ce bouquin, c'est très important. Donc, bref, l'auteur finit un peu ça pour, aussi respecter ce truc-là de dernier désir de ce mec mourant, tu vois.
C'est bizarre parce que la rédaction de ce livre, ça ressemble déjà à une théorie du complot, en fait. C'est...
Ouais, surtout qu'en plus, le mec qui, de base, l'a écrit, c'est un mec qui est extrêmement lié aux barbouzeries, etc., qui a admis lui-même qu'il avait tué le mec qui avait tué le Che Guevara. Genre, il a mené des commandos en plein Paris, en fait, parce qu'avec ses potes d'extrême-gauche, en fait, il savait que quand il y avait... quand les gros dictateurs ou ce genre de personnes venaient à Paris, ils fréquentaient toujours les mêmes hôtels et les mêmes parkings, etc. Ouais. Du coup, ils montaient des plans pour les buter, en fait, tu vois. Et lui, il a avoué, il a été gracié, du coup, genre, il a tué le mec qui a tué Che Guevara, et du coup, ils ont dit, oh, bah, c'est un crime, voilà. Et du coup, genre, il a pas fait vraiment de tôle pour la question, enfin, j'ai l'impression, je peux me tromper, tu vois. Mais c'est assez hallucinant, cette histoire-là.
Okay.
Et du coup, c'est là où ça commence à devenir vraiment red pill as fuck. C'est qu'il dit qu'en gros, il y a un moment donné où il parle à un de ses potes qui habite juste à côté des lieux de l'accident,
uh-huh.
qu'il sait qu'il y a un mec qui est du coup un de ses vieux potes, mais qui est complètement du coup barbouze, etc., et mêlé dans des trucs absurdes. Et le mec dit, à un moment donné, ah ouais, c'est quand même ça, Coluche, là, ils m'ont fait chier pendant un mois, là, avec leur bouteille de bière dans la piscine à préparer leur sale coup, etc. Il fait quoi, pardon? Quoi? Et le mec se rend compte de la connerie qui fait, oh, pardon, j'en ai trop dit.
Bouteille de bière dans la piscine.
Et en gros, le gars, il lui dit que il y avait, genre, des mecs qui préparaient l'opération pendant un mois, qui ont pris le QG, du coup, chez lui, parce qu'il était juste à côté des lieux d'accident, qui, du coup, repéraient les habitudes de Coluche, ce qui est, genre, probable dans le sens où Coluche, en effet, faisait à peu près la même chose tous les jours. Il faisait l'aller-retour Cannes, machin, tous les jours, souvent en moto. Il était facilement reconnaissable parce que c'était le mec qui avait jamais de casque. Et du coup, ils disent que, en gros, bah, le mec, il dit, voilà, c'était un coup, quoi. Enfin, genre, vraiment, ils ont voulu buter Coluche, quoi. Parce qu'à ce moment-là, et une des théories de la... maintenant, c'est pourquoi? Parce qu'on n'est plus en 82, ou je sais plus quand était la date,
ouais, pourquoi
80, tu vois. Pourquoi?
L'élection est passée.
Les élections sont passées, tu vois. Sauf que Coluche, à ce moment-là, est en train de préparer son retour sur scène. Et que, clairement, il est pas en mode, ah, oh, c'est bon, maintenant, je fais que des blagues de pipi caca, tu vois.
Ouais, l'histoire d'un mec, c'est du passé.
Ouais. Il est vraiment en mode, je vais foutre des baffes à tout le monde. Il dit, la gauche, la droite, tout le monde va en prendre. Et il y a un lien YouTube que je mettrai dans la description, où, en fait, il répétait certains sketchs, du coup, qu'il a jamais pu faire parce qu'il est mort avant. Mais c'était un sketch c'était un spectacle qui allait à Bercy. À cette époque-là, ce mec, il remplissait des salles, mais on se rend même pas compte à quel point il était populaire, quoi.
Ouais.
Un truc de taré. Vraiment, genre, ultra populaire. Ils faisaient carton plein à chaque fois, donc ça aurait été un spectacle qui aurait été de ouf suivi par tout le monde.
Si vous êtes américain, Coluche est très important pour les Français.
Ça, c'est établi. Et du coup, voilà, ce sketch, et en effet, il a pas juste tapé sur la droite, etc. Il parle directement de la CGT, il parle de la gauche, et surtout, le soupçon qu'il y a à ce moment-là, c'est combien de secrets de Mitterrand il connaît, en fait. Parce que Mitterrand a des secrets. On a été prouvé après que Mitterrand a fait des écoutes. Il ouais. sait, du coup, exactement ce que les journalistes savent sur lui. Son gros secret à l'époque, c'était surtout sa fille cachée. Mais il y en avait plein d'autres aussi, tu vois. Il y avait plein de salles. Mais c'était quand même le truc principal. Et en gros, l'auteur dit que Coluche était absolument, savait pour ce truc de Mazarine. Et qu'il allait faire des blagues dessus pendant son spectacle, etc. Mais que surtout, Mitterrand, il s'était quand même, genre, mis une garde rapprochée un peu sous son aile, qui était même capable d'agir, sans même lui demander son avis, sans même que le mec soit au courant, genre, ils auraient pu être capables de, genre, monter des opérations, même sans lui demander quoi que ce soit, sans l'impliquer, en sachant que ça ferait plaisir au patron, tu vois.
C'est beau, la France.
Et du coup, voilà, ils disent que, bon, bah, c'est pas du coup monsieur Pip qui aurait été coupable, c'était du coup un des mecs de la de l'opération qui conduisait le camion, qui a tourné parce que c'est très maniable, on a l'impression qu'un 33 tonnes ça va être compliqué à manier, pour tuer quelqu'un il y a quand même plus simple, etc. Mais faut comprendre que ce qui bouge dans un 33 tonnes c'est la cabine de devant, c'est pas tout le truc. Donc la remorque elle bouge pas forcément, mais la petite cabine de devant, ça c'est très agile, ça peut bouger super rapidement, tu vois.
Ouais.
Donc tu peux faire un virage super rapidement, et en effet, sur les lieux du crime, on voit que il est dans cette position, il est en équerre, c'est-à-dire que la cabine est complètement tournée, et la remorque est derrière, tu vois, en perpendiculaire au truc, tu vois. Et donc du coup, il dit, bah voilà que c'est ça, après ça monte dans des trucs absurdes, où en gros, il dit qu'il a rencontré un gendarme, qui dit qu'il a eu un de ses pote gendarme qui lui avait appelé en panique parce qu'il avait peur de se faire tuer, parce qu'il avait récupéré un dossier qui détaillait exactement toutes les critères opérationnels de comment cette opération avait été donnée, et le mec sur son lit de mort il a toujours cru en fait que ce dossier particulier arriverait jusqu'à lui, qu'il arriverait enfin, que quelqu'un lui enverrait et qu'il pourrait enfin genre sortir son bouquin en étant confirmé, etc. Que c'était vrai, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour de la question Coluche. Donc voilà, maintenant c'est canon pour le podcast.
Gravé dans le marbre.
C'est gravé dans le marbre. C'est extrêmement perturbant.
Apprendre avec des pincettes, parce que on voudrait.
Apprendre
on
avec
voudrait,
zéro pincette.
On voudrait pas que vous fassiez.
Quick. Mais ouais non, et c'est marrant parce que du coup il y a un autre truc où il dit genre, parce que tu te dirais aussi genre vas-y il y a plus, enfin. Il y a quand même plus simple, si tu veux buter quelqu'un, tu peux juste aussi genre lui mettre une balle dans la nuque et puis c'est bon.
Bah c'est ça qui est le plus bizarre dans cette affaire en fait, c'est que c'est... Effectivement, c'est des circonstances d'accident en fait. Enfin, un accident de la route, c'est pas un truc facile à calculer, à gérer, enfin... Que le camion il soit là, à cet endroit-là...
Exactement, moi c'est ça qui me gêne le plus. Moi c'est ce qui me gêne le plus, à la toute fin du truc, c'est que, ok, le fait que, tu vois, tu renverses un mec avec un camion... Ça, je peux y croire. Pourquoi pas? Le fait que la France, ce soit un régime pourri, qu'il y ait des gens qui soient capables de faire des meurtres déguisés comme ça, de la DGSE. Absolument aucun problème à croire ça. Là où ça me gêne un peu, c'est que souvent, ces mecs-là, c'est des bras cassés. Que, genre, dans l'idée, c'est toujours très intelligent, mais qu'après, dans l'exécution, c'est toujours à moitié foiré. Et que là, l'exécution est quand même particulièrement parfaite. Parce que non seulement, le mec, c'est trop parfait. Mais il a tourné pile où, en effet, là où il y avait le pont, en fait, tu vois. Et en effet, il avait des gravats derrière. Et c'est là où tu demandes, du coup, il travaillait pour qui? Ça, c'est un autre truc que tu peux demander. Le mec, monsieur Bip, il travaillait pour qui, tu vois? Il travaillait pour une entreprise. Il a un 33 tonnes, il dévase des gravats, ça va être une entreprise du bâtiment ou quoi que ce soit. Non! Il travaille à son compte à ce moment-là. Un peu, genre, au black. Et tu sais pour qui il travaille? Ah, c'est hallucinant. Non, tu dis gravats, voilà, truc de construction, blablabla. Dans le rapport du procès, ils disent donc que les gravats dont il se débarrassait, c'était les gravats des travaux de la gendarmerie. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus. Parce qu'en plus, il insiste pas du tout dans le bouquin sur cette question-là. Il dit juste à un moment donné, voilà les rapports du procès, et regardez s'il y a pas un détail qui vous paraît bizarre. Et du coup, j'ai lu le truc. Et après, il dit pas, alors voilà, vous avez dû remarquer que c'est les gravats des travaux de la gendarmerie. Il en parle pas du tout. Ouais. C'est genre, sounds important. Genre, ça a l'air assez important, étant donné que, en plus, les gens qui paraissaient être à la solde un peu de Mitterrand à cette époque-là, c'était justement les gendarmes, tu vois.
Ouais, mais après.
Donc, il travaille pour son compte et il se débarrasse des gravats du travaux de la gendarmerie.
Tu sais que, enfin, j'ai déjà eu à me débarrasser d'un gros tas de déchets comme ça.
Ouais. Et on t'a demandé de tuer Coluche en même temps.
Ouais.
Mais au fait, non, mais oublie pas de tuer Coluche.
j'ai appelé plein de numéros. Bon, il y en avait certains qui étaient un petit peu bizarres.
Ouais.
Mais effectivement, enfin, il y a genre plein d'entreprises qui font ça. Genre, ouais. Est-ce que tu peux venir chercher les gravats? Je pense que la gendarmerie a pas dû se faire chier.
Après, ça reste une couverture, tu vois, genre de se dire, voilà, le mec, il allait littéralement à la décharge, donc oui, c'est logique qu'il tourne à cet endroit-là, il va à la décharge pour se débarrasser des gravats. Moi, je trouve que c'est l'alibi parfait, en effet, tu vois, tu te dis, d'accord.
C'est un bon alibi.
Et un autre truc du machin, c'est qu'ils disent que le fameux petit pont qu'il devait traverser pour aller se débarrasser des gravats, c'est même pas un vrai pont, c'est un espèce de petit renfoncement qui passe au-dessus d'un espèce de fossé, en fait.
Ouais.
Et lui, il dit, en gros, je pense que le 33 tonnes n'aurait jamais pu passer sur le pont sans que le pont s'effondre. Il dit que le truc était beaucoup trop gros et lourd et qu'il y avait zéro chance que le machin puisse vraiment passer, en fait.
Mmh.
Et ils ont fait une reconstitution, et du coup, ils détaillent la reconstitution aussi, et dans la reconstitution, ils ont pas fait passer le pont, genre le camion sur le pont non plus.
Attends, ça veut dire qu'il aurait pu mourir à la place de Coluche, un accident de pont.
Enfin, il aurait pu genre juste faire le pont et le pont serait effondré, du coup le truc aurait été bloqué et Coluche, il aurait peut-être vu passer et le conducteur a quand même été condamné, c'était une somme symbolique, mais il a été quand même reconnu fautif par le juge et par le procès, hein. Mmh. Ça a pas été un truc où on a dit, parce que là maintenant tout le monde dit c'était la faute de Coluche, mais juridiquement parlant, c'était la faute du camionneur.
C'est pas la faute de Coluche.
Ils disent que il a pas suffisamment fait ses contrôles, qu'il a trop regardé soi-disant derrière, qu'on le dépasse pas, etc., qu'il a pas mis de clignotant, et que du coup il a pas vu qu'il y avait quelqu'un qui arrivait en face. Et du coup la responsabilité de Coluche là-dedans, elle est pas vraiment avancée, dans le, en tout cas dans le procès, quoi.
Ouais.
Enfin bref, RIP à Coluche.
RIP à Coluche.
On ne dira jamais assez. Et des zones d'ombre sur ce sujet. Et si je me suicide dans les prochains jours, sachez que je suis pas du tout déprimé. Hein.
Il va très bien. Il a la banane là.
Super
faut pas...
bien. Je suis prudent quand je traverse la route, vraiment. Je sors pas beaucoup de chez moi. S'il
ça, ça
un
je confirme,
bizarre,
il sort jamais de chez lui. Il dit pas beaucoup, mais c'est un euphémisme. Il sort jamais de chez lui.
Donc, franchement, s'il y a une mort, s'il vous plaît, enquêtez dessus. Genre, faites un livre à la Coluche dessus, s'il vous plaît, parce que c'est bizarre cette histoire, quand même, je trouve. Mais en effet, voilà, là où je trouve que c'est un peu impossible, c'est que le fait qu'ils aient réussi à le renverser pile au croisement du pont, enfin, tu vois, genre. C'est vraiment, c'est millimétré, quoi. Et soit c'est un coup de chat. Après, ça peut arriver aussi, tu vois. Un putain de coup de chat. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu le crime parfait. Mais du coup, il dit, la théorie du complot ultime, c'est de dire que c'était pas le camionneur qui a tourné. C'est un mec de la gendarmerie qui a, genre, en gros, fait pression sur le camionneur, qui a dit au gars de baisser la tête à côté de lui dans le siège passager. C'est lui qui s'est occupé de faire l'assassinat. Et ensuite, bah, dans la confusion, il y a le pote qui est arrivé, il a pas vu, mais en fait, le mec, il est sorti de la cabine. Le conducteur a fait comme si c'était lui qui conduisait, mais le vrai opérateur du machin, il est parti du truc et il s'est cassé dans les forêts parce que c'était une zone un petit peu genre boisée, etc. Quoi. Very disturbing. Very disturbing stuff.
Et pour rajouter un petit peu une couche à ce mystère, tu savais que Coluche, c'était pas son vrai nom ?
Mais non.
Génération wow. Coluche.
Génération Coluche, j'adore.
J'ai épicé.
Podcast parodique.
Ça va, Guillaume ?
Oui, et toi ?
Ouais.
Putain, quel homme de la radio, vraiment, genre.
ça te dit une petite rubrique ?
C'est ce que je préférerais le plus au monde, là, maintenant.
En plus, c'est d'actualité. Hein.
Oh, on adore ça, l'actualité.
Ça s'appelle « Riche ». Et que ça saute.
Oh shit, j'adore ce nom, fuck.
J'adore ça. Je l'ai beaucoup workshopé. Hein.
I love it.
J'ai beaucoup workshopé.
I love it.
Ces temps-ci, crise du Covid.
Ouais.
On n'a pas beaucoup de sous. Il y a pas beaucoup c'est de vrai. Travail, on n'a pas beaucoup de sous.
C'est pas faux.
On en chie, la récession arrive.
Peut-être, ouais.
De quoi on a besoin ?
D'argent.
Des sous, des
oui,
sous,
des sous. Des sous.
Théorie numéro 1.
Ok, théorie. C'est comment avoir des sous pendant la pandémie, c'est ça la rubrique ?
Comment faire de l'argent ?
Comment faire de l'argent ? Argent facile.
Argent facile.
Nice.
Argent facile.
I love that.
Commencez par vendre tous vos bitcoins, ça c'est du passé. Toutes vos crypto-monnaies, genre vendez-les. C'est fini.
C'est vrai qu'on a commencé le podcast sur ce thème et je pense qu'il est grand temps.
C'est vrai qu'on
de
vous
fermer la page.
On vous en a pas parlé depuis.
Non, pour une raison.
Mais pas une raison. C'est nous qui créons les vagues. Vendez tout.
Alors, je pense qu'on va avoir des problèmes avec l'organisation, l'association, je ne sais pas, d'autorégulation financière si on dit que c'est nous qui avons créé les vagues. Mais c'est vrai en même temps.
Oui, et quand je dis Bitcoin, je veux dire toutes les crypto-monnaies. Enfin,
absolument.
Tout dans le même sac.
Toutes.
Vendez.
Ouais.
Vendez.
Oh, vendez.
J'ai mis un mec de Wall Street là. Vendez. Deuxième idée.
Ok, ça déjà, ça devrait vous rapporter à peu près, allez, 10 balles, je pense.
Deuxième idée. Dans un mois, créer une nouvelle crypto-monnaie.
Ok, c'était que la première étape, en effet. Ouais.
Et ce serait la seule crypto-monnaie, parce que tout le monde a tout vendu.
Bah oui, parce qu'il y aura plus de conseils.
Il y aura plus qu'une seule crypto-monnaie.
Bien sûr.
Ok, ça je viens de l'inventer. C'était pas dans mes notes, je viens de l'inventer. Troisième idée. Une entreprise qui fabrique des pousse-pièces, mais genre qui rend le concept, parce que le concept jusqu'ici il a été un petit peu limité aux fêtes foraines, les fêtes à nono, tout ça. trop petit cerveau là.
Ouais.
Idée gros cerveau.
Ouais.
On en installe partout.
Ouais.
Partout. Ouais. Il y a des machines à café, il y a des machines qui vendent des barres de Kit Kat, des conneries comme ça. Je sais pas ce qu'il y a dans les
complètement des machines qui vendent des Kit Kat, sûrement, ouais.
À côté de ça, des pousse-pièces.
OK.
Pour tout le monde.
OK. OK.
Pour tout le monde.
Très bien.
Ils peuvent pas l'interdire parce que c'est des trop petites sommes. Des trop petites sommes. Si on fonctionne par tranche de 10 centimes,
on n'aura pas de problème.
On n'aura pas de problème.
Ok.
Et du coup, on se fait beaucoup d'argent parce que je sais pas si vous savez, j'ai regardé vite fait. Ouais. J'avoue, je me suis pas trop penché.
Non.
Les marges qu'on se fait sur ces putains de pouces-pièces.
Et c'est toi qui possèdes les pouces-pièces, du coup. Tu c'est ça.
Ouais. Pourquoi? Enfin.
Tu demandes aux auditeurs
je mets cette idée dans l'inconscient ouais, collectif.
De lancer leur marque de pouces-pièces.
Il y aura. Après, la société sera divisée en deux. Genre, ouais, les gens qui possèdent les pouces-pièces et les gens qui utilisent les pouces-pièces.
Ouais.
Moi, je veux que notre auditariat... C'est pas mal, ça, l'auditariat.
Auditariat, ouais.
Ça ressemble un peu au prolétariat, mais...
Ouais, 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 j'aime ça. Beaucoup aussi,
auditariat.
Ouais.
Notre auditariat.
C'est un très bon coinage.
Notre auditariat, je veux qu'il fasse partie des gens qui s'enrichissent avec ces idées-là.
Auditariat de tout le monde. Unissez-vous!
Voilà, Auditaria, c'est une petite idée que je vous propose comme ça. J'avais une dernière idée, mais je pense qu'elle va pas trop marcher.
Contrairement à ces plans brillants.
Ouais, non, mais enfin, je vais... Le contraire au crescendo, comme on dit.
Décrescendo.
Décrescendo. J'y vais à décrescendo, parce que... C'est un peu comme ça que l'énergie de notre podcast fonctionne en général, et,
ouais,
et on fait des bons chiffres au niveau de l'Auditaria, donc...
Ouais.
Je vais continuer avec cette formule-là.
Les gens aiment bien quand ça commence très bien et que ça...
Et que ça finit mal.
Voilà, et que ça, progressivement, ça baisse, je pense.
Ouais, je pense qu'ils apprécient. Commencer par tourner un film avec des acteurs très connus.
Genre qui?
Franck Dubosc.
Ouais.
Brad Pitt. Là,
pactole accompli. Oh putain, j'aimerais tellement voir un film avec Franck Dubosc. Alors... Oh,
je pense que ça peut le faire.
Oh, ça serait tellement bien.
Je pense que ça peut le faire. Et
je Franck pensais Dubosc... pas que je voulais ça avant, mais je veux ça.
Et Franck Dubosc, en vrai, c'est un type. Genre, c'est, y a,
ouais,
y a pas deux Franck Dubosc. Donc, un peu inimitable.
J'aimerais bien que ce soit un film où, genre, du coup, peut-être que, genre, Franck Dubosc, c'est la version de Brad Pitt, mais genre 20 ans après. Tu vois, il y a un moment donné où on a genre 20 ans plus tard, et là, c'est Franck Dubosc. On remplace Brad Pitt. Le personnage de Brad Pitt en Franck Dubosc.
Ils ont littéralement le même âge.
Genre, oui, mais Franck Dubosc, non. Alors, déjà, je refuse cette notion que Brad Pitt soit vieux.
Ok.
Et qu'il ait le même âge que Franck Dubosc. Je refuse ça complètement.
Ok, tu penses qu'il y a combien de différences d'âge entre Brad Pitt et Franck Dubosc?
Peut-être pas beaucoup, en effet. Peut-être pas beaucoup.
Je pense qu'il y a littéralement 2 ans d'écart, pas plus.
Damn. Ok, faites vos jeux. Toi, tu dis au moins 5 ans. Au moins 5.
Ok, je vais développer mon idée pendant que... Donc tu dis 5 ans, moi je dis 2 ans.
Brad Pitt, 56 ans.
Ok, donc vous faites un film avec Brad Pitt et Franck Dubosc. Vous le tournez, vous trouvez un distributeur et tout. je vois que tu rigoles, j'ai envie de savoir. Maintenant.
Ils sont exactement le même.
I knew it.
Tous les deux 56 ans.
I knew it. Fucking knew it.
Oh la vache.
Ok.
Putain, je pensais pas que j'avais besoin de savoir cette information, mais putain, ils sont Franck Dubosc et Brad Pitt sont nés la même année. Fuck.
Ok, donc idée. Vous tournez un film avec deux acteurs de 56 ans.
Ouais.
Au hasard. Brad Pitt et Franck Dubosc. Je vais pas trop te mettre le nez dans ton caca en disant qu'ils ont exactement le même âge et que j'avais raison du coup.
Mets-le moi.
J'ai gagné. Robin a gagné. Guillaume est grand. Robin est grand. Putain, merde. Fuck. Bref.
Yes.
Un film avec Franck Dubosc et Brad Pitt. Vous trouvez un distributeur, vous récoltez beaucoup d'argent parce que c'est une super bonne idée.
Ouais, déjà.
Vous faites une première.
Ok.
Grande première.
Ouais, ah bah ouais, c'est le film de l'année là.
Grande première.
Mm-hmm.
C'est pas très facile à organiser une première d'un film.
C'est vrai.
Un des trucs qui est difficile à faire, c'est le service pour garder les manteaux, genre le vestiaire. C'est un service.
T'as déjà fait ça dans la vie?
Je passe là-dessus.
Pardon.
je voudrais pas dire d'informations qui me foutraient en prison.
Ok.
Le cinéma va te demander merde, comment est-ce qu'on va faire pour les vestiaires?
Ah ouais, ça va être un gros souci. Ouais.
Tu fais, j'ai une idée.
Ouais.
Tu demandes à tes potes de s'occuper du vestiaire.
Ouais.
Ils disent ok, parce que c'est très difficile de recruter un vestiaire.
Extrêmement compliqué, ouais.
C'est très difficile.
Personne veut faire ce travail.
Du coup, la première se passe.
Mm-hmm.
Se passe bien. Il y a Franck Dubosc. Il y a Brad Pitt.
Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Tout le monde est là. Il y a Jack Lang. Il y a Gabriel Matneff. Il y a tout le monde.
Oh, shit.
Tout le monde est là.
Christophe Girard est là aussi.
Tu sais ce que tous ces gens-là, tout le gratin parisien, tu sais ce qu'ils ont dans leur poche? Dans leur manteau?
Wow. Des sous.
Une tonne de thunes.
Oh, putain, ils ont plein de sous.
Des cartes American Express.
Oh,
Express.
American Express. American Express, putain.
Putain, j'ai même...
Bonjour, je voudrais 17...
Cartes American Express.
S'il vous plaît. Hey, salut, tu vas bien, c'est Franck Dubosc.
On dirait vraiment un faux, putain. On dirait vraiment genre la version auditaria de l'American Express. Roger, j'ai bouillé ma American Express. C'est une débit card, en fait. C'est comme la Moneo, mais d'American Express.
Ok.
I love it.
Donc c'est là qu'il y a le moment dans Ocean's Eleven où genre il y a le montage
ouais.
Du braquage. Genre
le meilleur moment, le plus fin de braquage.
Les gens rentrent dans la salle.
Ouais.
Le film commence.
Ouais. Tout le monde en costume.
Tes potes qui sont dans le vestiaire.
Yes.
Prennent tous les manteaux.
Ouais.
Ils vont direct à la banque. Catching!
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 Catching! Et alors, catching! Le film, il marche ou pas, du coup? On s'en fout?
C'est secondaire.
Pas important.
Voilà, c'est bien secondaire.
Par rapport à la thune que tu vas avoir, des
poches. Par rapport
à
la thune que tu récoltes avec le vestiaire.
Ouais.
Genre.
Faire un film avec Brad Pitt et Dubosc à côté.
C'est
rien.
Justement, c'est la diversion parfaite.
C'est la diversion
parce que les gens se disent.
Exactement.
Comment est-ce qu'on se fait les sous aujourd'hui? Je sais pas, on fait un film.
Avec Dubosc et Brad Pitt, I guess. Ouais.
Donc c'est pas mal de thunes.
C'est le premier truc
ça,
que tu te dis. C'est la première idée. Ouais.
C'est la première idée.
Ouais.
Le vestiaire.
Personne n'y pense.
Personne n'y pense.
Absolument personne.
Personne n'y pense.
Enfin, c'est brillant. Ok, bah écoute. Voilà, si vous faites ça, dites-nous si ça a fonctionné ou pas, j'imagine.
Dites-nous si ça fonctionne.
Ouais.
Dites-nous si ça fonctionne.
J'imagine qu'on verra déjà s'il y a un truc avec Franck Dubosc et Brad Pitt. On pourra déjà avoir un indice en se disant il y a peut-être un brouille là. Il y a peut-être un tour les poules. Hein.
À la rigueur, trouver deux autres acteurs de 56 ans.
Ouais.
Des actrices, peut-être. Peut-être des actrices pour brouiller les prises.
Oui.
Tu prends l'apéro.
Du brouiller pour les actrices de plus de 50 ans en plus, c'est important.
J'avoue.
C'est féministe si vous le faites.
C'est féministe.
Comme ce podcast.
Comme ce podcast.
Vous écoutez un podcast. Féministe.
Ok, donc moi j'ai donné trois idées pour devenir riche très vite.
Ouais.
Est-ce que t'as une petite idée comme ça pour...
Eh bah, pour quand on parle d'argent, on a un peu abandonné l'idée des sponsors, ce que je trouve un peu dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à se faire là-dessus, tu vois.
Ouais, mais les sponsors, en ce moment, ils ont les poches percées, enfin...
Mais le blanchiment d'argent, c'est quelque chose qui a de l'avenir aussi, tu vois. Donc, mettre
la
communication, c'est quelque chose, tu vois, genre, tu fais genre, tu payes des milliers dans une fausse agence de communication ou un faux bon sponsor... C'est parfait, tu vois. Et du coup, je nous ai décoté un nouveau sponsor. Et à partir de cette minute, on va avoir les spots qui vont démarrer. Donc, on va mettre un spot juste après cette rubrique. Et après, on en mettra jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a trois en tout, je crois.
Il y en a trois, ouais.
Donc, je sais pas. On mettra peut-être les autres ou pas en fonction de à quel point ils nous payent bien, tu vois.
Et genre, on n'en avait pas parlé de ça avant. Genre, moi, je récolte.
Rien du tout. C'est juste moi parce que j'ai trouvé le sponsor en fait. Et du coup, toi, t'as pas le droit à avoir de l'argent en fait.
Mais moi, j'ai la propriété intellectuelle de ce podcast.
Pas vraiment. Le contrat que j'ai fait avec eux stipule expressément que aucun argent doit aller dans tes poches à la fin.
Mais je veux pas du tout qu'on fasse des
sponsors
dans ces conditions-là.
C'était leur condition à eux. Ouais, mais tu vois, genre, t'as dit tout à l'heure que c'était moi qui allais le monter en plus l'épisode, tu vois, donc.
On parle moins fort.
Ok.
Tu me donneras un peu d'argent après.
Je te donnerai un tout petit peu d'argent si tu veux.
Ok, donc les sponsors.
Okay. Donc les sponsors.
Roule ma poule.
Je vais pas le mettre près du micro parce que comme ça je pourrais l'intégrer, ça sera plus clean, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc voilà, c'est la nouvelle campagne c'est les magrets de canard. Et du coup, c'est le premier spot du magret de canard que vous allez entendre maintenant. Donc voilà, ce spot est intégralement endorsé par moi et Robin. Nous, on est
100%,
d'accord.
Ouais, je suis derrière.
100% derrière, donc voilà, achetez du magret de canard, et puis voilà, on va laisser nos annonceurs
Miam,
faire le truc.
Le magret de canard. Voilà.
Alors, on peut plus utiliser sa voiture sans culpabiliser, on peut plus tenir la porte aux dames sans passer pour un dragueur, bientôt on pourra plus s'asseoir sur l'herbe, sinon on écrase les insectes rares.
C'est
Heureusement
vrai.
Qu'il nous reste le confit de canard. Un bon confit de canard vite fait au four, sans chichi, accompagné de patates sautées à l'ail, en refaisant le monde dans la cuisine avec les potes. Hein? On va pas nous le piquer, ça? Le confit de canard.
Bah si, justement.
Je pense que ouais.
Bonheur, peinard.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
Voilà, donc c'est un spot, voilà, c'est sur l'islamo-gauchisme un peu, tu vois.
Évitez de grignoter des confits de canard entre les repas.
T'es au bureau, t'es
j'adore
là, genre,
le petit,
genre,
j'ai une petite spot à la fin.
J'ai une petite
fringale.
Du coup, là, ça, c'est la version mec, tu vois, qu'on a un peu marre des féministes et tout ça, tu vois.
J'adore, je suis à 100% derrière ce spot.
Du
j'adore.
Coup, ça, c'est la version féminine, du coup, c'est une meuf qu'on a marre, tu vois. On va l'écouter un an.
Alors, si je récapitule.
Alors, si je récapitule.
On peut plus se faire appeler mademoiselle. On ne peut plus faire de blagues sur les gens. On ne peut plus faire la fête après 10 heures.
On peut plus rien dire.
Dieu merci, il nous reste le confit de canard. Ah, un bon confit de canard entre copines avec des figurines bien dodues en papotant jusqu'à pas d'heure. Encore que si ça se trouve, il y a bien un illuminé qui réfléchit à interdire les papotages. Faut se dépêcher, les filles. Le confit de canard.
Faut se dépêcher, les filles. Le papotage, ça, c'est
pour
bientôt fini.
Hein. Les aliments gras salés sucrés.
Est-ce que c'est toi qui as enregistré ça, genre c'est... juste pour savoir.
C'est vraiment très drôle. Il y en a trois. Franchement, je pensais qu'on les égrènerait, mais autant les faire les trois d'un coup, là, parce qu'ils sont tous les trois absolument aussi débiles les uns que les autres. Ils sont vraiment fantastiques.
C'est génial.
C'est vraiment genre l'insight, tu vois. Genre, c'est ce qu'on appelle en termes de communication, tu vois. Genre, c'est le point de départ de genre un truc que tout le monde est un peu d'accord et sur lequel on va partir pour faire notre spot. Et là, l'insight, c'est vraiment le.
On peut plus rien dire.
Ouais. Et ça, je trouve ça fantastique. Et en même temps, genre, j'ai vu sur Twitter des gens qui ont râlé aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas brillant pour les auditeurs d'RMC? Franchement,
c'est assez génial.
Ça passe pas trop bien entre genre deux trucs racistes des grandes gueules, ça.
Franchement,
ça marche super, tu vois.
J'adore.
Et du coup, le dernier, donc, ouais, ils ont mis deux trucs de meufs et un truc de femme.
Est-ce
j'imagine
que c'est
qu'il...
un guest pot de Eric Zemmour? C'est pour savoir. Ouais, c'est Pascal Pro qui dit, est-ce qu'on peut encore tout manger?
Ça mélange tellement tout. Ça mélange genre le confinement, du coup genre on peut plus faire le soir à cause du confinement, et aussi le on peut plus draguer, genre les féministes ils nous empêchent de vivre notre vie, et on peut plus faire de blagues parce que les gens woke.
C'est l'idée. Ouais.
Et du coup le dernier.
Alors, faut faire attention à ce qu'on dit dans l'ascenseur du bureau, faut faire attention à ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, et puis maintenant il faut faire attention aux photos qu'on envoie avec son téléphone. Eh oh, hein. Oui. Heureusement qu'il nous reste le confit de canard. Ah, un bon confit de canard bien préparé au four pour que ça embaume
tellement
toute la maison. Avec une petite salade de roquette, des pommes noisettes, quelques
manger du confit de canard avant que ce soit cancel.
C'est pas interdit ça, les copains.
Non.
Hein, vous le dites sinon. Le confit de canard.
C'est vraiment ça le truc, c'est genre se dire, ok, on est dans une ère là où tout est cancelled.
Ouais, c'est
la prochaine chose qui va être cancelled, ça va être le confit de canard. C'est sûr, c'est le prochain sur la liste des islamo-gauchistes.
Mais y a pas genre le foie gras avant, enfin.
non, la prochaine cible, là vraiment.
Si on doit dire ce qui est le plus controversé, genre, c'est pas le confit. Après, je sais pas, j'ai envie de m'informer sur le confit de canard et de savoir pourquoi ils sont autant sur les défensives, en fait.
Je sais pas, je pense que c'est le syndicat de la viande en général, c'est Interbev en général qui est tout le temps particulièrement tendu, tu vois, et qui doit être un peu en mode genre. C'est quoi la prochaine fois on pourra pas manger de confit de canard? Je sais pas. Fantastique. Très bonne idée, les gars. Donc, c'est notre nouveau sponsor. Donc, manger du confit de canard.
Merde.
Entre potes. Faire des blagues racistes.
Papoter.
Faire des blagues sexistes.
Les hommes et les femmes. Papoter ensemble.
Non. Alors, papoter séparément, tu vois.
Les femmes papotent.
Voilà. Les femmes font le confit de canard. Et les hommes, ils papotent,
les hommes.
Ah non, ils papotent pas, non. Ils font des blagues sexistes.
Voilà.
Vous faites des blagues sexistes avec votre pote devant le foot. Pendant que les femmes, elles papotent, elles, dans la cuisine. Et elles veulent se faire appeler mademoiselle. Très important. Elles s'appellent mademoiselle les unes les autres. En mode genre, comment ça va, mademoiselle? T'as pas un tampon? Tu vois, ce genre de truc que les meufs disent tout le temps, tu vois. Et surtout, pas d'islamo-gauchisme, quoi.
Surtout
vraiment.
Pas, ouais.
Voilà. Manger une bonne, ce que ils détestent, en plus, le canard, les islamo-gauchistes, il me semble.
Ouais.
Ils mangent pas ça, hein. C'est rare, hein, le canard, il me semble.
Ouais.
Donc voilà. On est pro, magret canard. C'est tout ce que j'ai envie de dire.
Sauver nos montages racistes. manger du magret canard.
C'est Charlie, le magret canard. Ça, il faut le savoir, hein.
C'est très Charlie. Mais c'est pas genre un truc, ça se mange cru le magret de canard. J'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé.
Ça se mange cru le magret de canard.
Je sais pas. Est-ce que c'est genre,
non,
est-ce
c'est
que
pas
c'est
du
genre
tartare.
Est-ce que c'est genre une charcuterie comme un gésier de canard, genre?
Non, c'est des espèces de petites cuisses. C'est comme une espèce de, comme un peu du poulet, je pense. Genre tu
c'est comme
ça
poulet.
Comme du poulet un peu, je pense. Tu vois, genre et puis tu manges ça avec des patates frites, tu vois, ou des haricots. J'en sais rien. Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas. En général, c'est vraiment la bouffe un peu ultime des brasseries, tu vois, parisiennes et tout genre.
Non,
tu
c'est les œufs mayo.
Berk. Non, plus personne mange ça. Non, tu manges un petit magret de canard quand t'es en brasserie, tu vois.
Ça se voit que tu suis pas les actualités des brasseries parisiennes, parce que l'œuf mayo, c'est un truc qui revient en force, Guillaume.
Ça revient en force, les œufs mayo. Genre les œufs crus.
Je suis même pas ironique sur ce coup-là, c'est vraiment...
Non, je vois ça, c'est pour ça que je te prends au sérieux.
C'est vraiment un truc, genre, ouais, le bon œuf mayo, genre... ça rejoint les bistrologies, Guillaume. J'imagine que la bistrologie, c'est passé au-dessus de ta tête, mais genre...
Alors, j'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Bistrologie, genre, non, je me suis arrêté au...
Bistronomie, mistrologie,
non,
genre...
Non, tu te fous de ma gueule, genre...
Je me fous absolument pas de ta gueule, c'est genre...
J'étais resté à la mixologie, moi. C'est le dernier truc... Après ça, j'ai déconnecté mon cerveau, genre, je me suis trépané moi-même, tu vois, j'ai enfoncé une perceuse dans mon lobe frontal,
ouais.
J'ai appuyé très fort, Et depuis, je suis plutôt heureux, en vrai. Genre, je pense juste aux théories du complot autour de Coluche et absolument pas du tout à la bistronomie.
Écoute, tant mieux pour toi, hein, peut-être.
Ouais, je pense. Pour moi, ouais, pour ma santé.
Et pour la santé vôtre. Mentale. La santé mentale. Salut, c'est Macho Tonio.
Et
je viens vous parler de la santé mentale.
C'est ouais, Macho Tonio qui est là pour le World Mental Health Day. Alors, hey, Macho Tonio, si t'as mal à la cheville, tu vas chez le médecin. Et si tu as mal dans ta tête, tu vas chez le médecin aussi. Bah, Maki.
Tu ne trouves plus de sens à ta vie? Ce n'est pas une fatalité.
Ah, hein. Maki, la vie, c'est comme une pizza. C'est tout rond.
Et t'es pas obligé de prendre toujours la même pizza.
T'es pas obligé de prendre toujours la même. Si la pizza, même la pizza, si elle est pas bonne, ça reste une pizza. Ça reste bon quand même.
C'est ça qui est bon avec la pizza. Ouais. C'est bon, quoi que ce soit la pizza.
Ah, merci, Macho Tonio, pour ce message inspirant. Et en même temps, une des grandes figures italo-américaines, c'est Tony Soprano. Et Tony Soprano était pas trop fier pour aller en thérapie.
C'est vrai.
Il l'a fait, tu vois. Donc si
il l'a fait.
Franchement, je trouve que c'est un peu ça le message quand même de qu'on peut retenir, genre un des rares messages genre inspirants des Sopranos, tu vois.
Ouais.
Qui soit pas juste genre sur la dégradation morale du capitalisme de l'Amérique du fin du 20e siècle, tu vois. C'est si Tony Soprano est capable de ravaler sa fierté et d'aller faire une thérapie, moi aussi je peux le faire. Tu vois? Genre si même le Macho Tonio ultime, Macho Tonio Soprano, tu vois, va en thérapie, ça veut dire que genre I can do it, tu vois.
Ouais, par contre ton Macho Tonio ultime, il a quand même vendu le commerce local de deux à Jamba Juice, hein.
Pourquoi?
Tu te rappelles pas de cet épisode?
Ils vendent le commerce local à Jamba Juice?
Ouais.
Je m'en souviens pas du tout, non. Mais je dis pas que Tony Soprano est une bonne personne.
Il a littéralement fait ça. Ouais.
Je dis pas que Tony Soprano, Macho Tony Soprano, il est une bonne personne. Hein, il a tué des gens. Enfin, avant de le revendre à Jamba Juice, je parlerai d'abord de tous les divers meurtres qu'il a orchestrés et qu'il a même perpétré lui-même.
Admettons.
Bref, même si une ordure comme ça et un Macho Tony ultime, tu vois, genre, go to therapy. Trouve ta Melfi, tu vois. Même si je trouve que Melfi a pas été super utile dans la vie de Macho Tony, tu vois. Elle a pas fait de mal non plus, tu vois.
C'est vrai.
Je trouve que c'est un des meilleurs trucs que tu fais sur la thérapie. Ça fera pas de mal. Ouais. Tu vois, même si ça fait rien, ça fera pas de mal. Bon, voilà. C'était mon message. J'ai une dernière rubrique. C'est plutôt pas mal qu'on la mette à la fin, c'est comme ça pour la couper. C'est une rubrique que je veux faire depuis au moins 3 podcasts en plus, donc comme ça je serai débarrassé et je pourrais genre passer à autre chose dans ma tête parce que j'arrête pas de
penser. Ouais, il faut.
Donc voilà, on va le débarrasser. C'est Woke ou Broke. On va pouvoir ressentir ton générique.
Woke ou broke.
J'adore ce générique. Franchement, c'est mon générique préféré qu'on ait fait de toute génération podcast.
Je suis assez content de ce générique.
C'est pour ça que je voulais aussi remettre cette rubrique sur la table, tu vois.
Woke ou broke.
Et c'est sur Pascal Sevran.
Woke ou broke, Pascal Sevran.
Woke ou broke, Pascal Sevran. À ton avis, Pascal Sevran, woke ou broke?
Je dirais qu'il est plutôt broke, non?
Enfin... Ouais, moi aussi, plutôt. Mais il a certains trucs woke, tu vois.
Ok, donne-moi un exemple de truc woke.
Alors,
que Pascal Sevran a fait.
Truc woke que Pascal Sevran a fait? Non.
C'est un des rares animateurs. Une des rares personnalités publiques du PAF français. Des années 90, des années 2000, hors du placard. Et overwhelmingly, genre vraiment, tous acceptés par nos grand-mères.
Fogiel.
Mais est-ce que Fogiel, il est vu comme genre une figure positive pour l'homosexualité par nos grand-mères, tu vois, genre... Il est vu un peu comme une Cathy Beach, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Alors que Pascal Sevran, c'est genre l'ami des grand-mères, tu vois.
Okay.
Il aime bien la chanson française.
Laurent Boyer.
Laurent Boyer. Encore une fois, Gossip. Tu vois, tu me parles de Gossipy Beach, tu vois. Genre, Laurent Boyer, c'est rien du gossip. C'est genre l'intervieweur des stars. C'est du gossip pour moi, ça, tu vois. Et Fogiel, c'est gossip aussi, tu vois.
Stéphane Bern,
ok. Mais alors dans ce cas-là, on pourra faire aussi un woke broke avec Stéphane Bern et ça fera partie de la colonne woke de Stéphane Bern. En effet, genre un homosexuel aimé par nos amis, mais parce que il est royaliste.
C'est vrai.
Pour cette raison et cette raison ultime.
L'ancien maire de Paris.
Bertrand Delanoë. Pas aimé par nos grand-mères.
Pas aimé par nos grand-mères.
Non. Il n'était pas populaire du tout chez les vieux.
C'est vrai qu'il était pas très populaire.
Non, il était vu comme justement un gay, genre un méchant homosexuel, déviant, gay pride, tout ça, hein, je pense.
Okay.
I don't know, hein, mais moi je l'ai jamais vraiment vu comme quelqu'un qui était particulièrement populaire avec le troisième âge de la Noé. Mais Stéphane Bern complètement, par contre.
Ok, je dirais broke quand même pour Pascal Sevran parce que raciste, il me semble.
Voilà. Alors personne ne plus que Pascal Sevran niveau loved par nos grand-mères, clairement. Genre, ouais. Je pense que il est
inégalable. C'est un bon point niveau grand-mère.
Ah ouais.
Blanche.
Complètement, tu vois.
J'ai pas appliqué.
C'était quand même leur meilleur ami gay de toutes nos grand-mères, tu vois.
Blanche.
Oui. Potentiellement, ouais. Et alors du coup après dans la colonne broke.
Ah parce qu'on quand même.
Voilà, là j'en ai des.
On va décroissant aussi niveau woke.
Ouais, j'en ai pas des super parce que bon il a quand même fait. Il a écrit sur les Africains et il a beaucoup parlé des pénis des Africains.
Oui,
il
c'est
me
vrai
semble.
Qu'il avait un truc avec ça.
Et le fait qu'il faisait des enfants alors que c'était des criminels, qu'ils avaient des pénis qui distribuaient la mort parce qu'ils faisaient des enfants alors qu'ils étaient pauvres, tout ça. Donc ça va être dans la colonne broke.
Broke.
Consult Pascal Sevran. Il a fait un roman et ça je savais pas. J'ai un peu cherché hein, vraiment et je savais pas. Pascal Sevran a fait un roman qui s'appelle Vichy Dancing. I'm not making it up. Je sais qu'on dirait vraiment un sketch Génération Podcast. Il a littéralement écrit un truc qui s'appelle Vichy Dancing.
Écoute, ça se trouve c'est aussi drôle et la satire aussi fine que nous on fait.
Peut-être que si je me chauffe, je finirai par lire ce truc là, mais. Je m'en doute parce que je pense pas que je réussirai à le pirater. Je pense que je vais avoir du mal à le trouver sur le bon coin d'occasion. Ouais. Il faudrait que je l'achète sur Amazon. Enfin bref, ça me pète les couilles d'avance.
Ouais.
Mais le synopsis, c'est en gros, c'est un peu pour excuser les genres artistes de la collaboration, j'ai l'impression. En okay. mode genre, c'est genre le fils d'une grande chanteuse française qui avait genre ses heures de gloire avant la guerre et qui ensuite pendant la guerre a Mais continué. A été super collabo et du coup était une grande star de la France collaboration.
Oui, je vois qui tu veux dire. J'ai oublié son nom, mais.
Mais c'est de la fiction, hein, il me semble. C'est pas un documentaire. Hein. C'est de la fiction totale. Hein.
Ouais, mais il y a.
C'est basé sur des Arletty.
Arletty, ouais, clairement.
Arletty. Donc bref, c'est un truc sur ce genre de thème. J'ai pas eu le bouquin, donc je peux pas le mettre complètement dans la rubrique broke. Mais j'ai l'impression que Lang, c'est un peu en mode genre. Enfin, c'est le mec qui fait un espèce de travail de mémoire pour réhabiliter un peu sa mère qui était quand même pas si mal, même si elle a collaboré et tout ça, tu vois. J'avais l'impression que c'est ça. Juste en lisant le résumé, donc je peux pas mouiller tant plus que ça. Mais je mettrais quand même plus, du coup, dans la colonne broke. Je sais pas ce que t'en penses. Vichy Dancing.
Vichy Dancing, je pense que c'est... On peut pas savoir comment on n'y était pas.
Même si t'y es pas, tu peux quand même condamner des gens. Ça veut pas dire que
c'est
toi...
Non, c'est quand même broke, mais...
Ça veut pas dire que tu dis toi-même, genre, ah, moi, si j'avais été là, j'aurais fait autrement. En effet, on n'était pas là, on sait pas ce qu'on aurait fait à ce moment-là. Ouais, mais tu peux quand même condamner des gens qui ont fait des trucs sales, tu vois.
Absolument, mais se dire qu'on aurait été résistant et tout
non,
ça, enfin...
Non, that's not what we're saying here. Definitely not.
Ok, donc broke...
Donc
même.
Là, broke, tu vois. Là, broke. C'est un premier truc de la colonne broke. Ensuite, j'ai plutôt woke. j'ai pas encore beaucoup après. Là, je mettrais plutôt dans woke. Il a découvert Patricia Cass.
Il a découvert Patricia Cass,
tu vois.
Plutôt woke, hein.
Plutôt cool. Une grande chanteuse française avec beaucoup de talent.
Woke.
Tu mets aussi dans la colonne woke.
Woke.
Allez, woke. Et voilà. Bon, bah en dernier, hein. Là, on va mettre fermement dans la colonne broke. Soutien de Mitterrand et de Sarkozy.
Broke.
Giga broke. Je pense quand on pondère tous les points, je mettrais Pascal Sevran broke quand même, tu vois.
Désolé Pascal,
RIP à toi, mais le bilan, pas ouf.
Pas ouf le bilan.
Non. T'es d'accord avec moi? On met Pascal Sevran broke?
Attends, je vais prendre 2 secondes de réflexion.
Ouais, quand même, j'aimerais bien.
Broke.
Fucking
broke!
Ok, bah merci d'avoir écouté Génération Podcast. C'était un
plaisir de vous retrouver.
Un très bon podcast, hein, je trouve.
Je trouve, hein.
De bonne facture.
Un retour en forme. Hein.
Ouais, franchement. On n'est pas rouillé de quoi que ce soit.
Absolument pas.
Je dirais que c'est une grosse bouffée d'air frais.
Grave, dans le paf français. C'est une énorme bouffée d'air frais. Et de rien.
De rien.
C'est comme ça qu'on peut finir, je pense.
De rien et à la semaine prochaine.
À toutes et surtout n'oubliez pas, Coluche ne meurt jamais, Coluche dans le cœur.
Coluche forever. Génération Coluche.
Génération Coluche.
Alors, ce segment s'appelle « Mon problème avec le titre de BD de Garfield ».
Oh, ok. Donc, c'est du bonus.
C'est du bonus. Alors, tu vas me dire ce que tu penses. Parce que je sais que t'as pas trop lu Garfield quand t'étais enfant.
Non, c'est vrai.
Mais il y a un truc qui m'a toujours choqué, ouais. C'est que les titres des recueils de Garfield, ça a toujours été un truc complètement pété. On dirait qu'on leur a filé une illustration aux gens qui ont dû écrire les titres et qu'ils ont écrit un titre à partir de ça. Et à chaque fois, c'est un truc qui veut rien dire, qui a aucun sens. Bref, commençons par ce premier. J'ouvre ce JPEG.
Que je découvre en même temps que vous.
Ok. Garfield devant un plat.
Ouais.
Avec un verre d'eau à l'intérieur de l'assiette, ça je vais pas noter.
Mais j'aime... Ouais.
Garfield, les yeux plus gros que le ventre. Ça passe encore.
Ça va. Après, c'est encore une fois zéro effort, parce que c'est vrai que, bon, bah, c'est juste une expression.
Et il
y a
rien
de comique qui se passe sur l'image. Il est juste devant une assiette, quoi.
Alors là, tu commences à découvrir un thème des couvertures de Garfield.
C'est juste une expression, ouais.
Une expression.
Ok. Bon, ouais, c'est vrai que c'est déjà
pété. Une expression qui a un petit peu en lien avec ce qui se passe sur la couverture.
Ok.
Je te présente Garfield, la soupe est froide.
La soupe est froide.
John est en train de manger une soupe. Garfield a les pieds dans la soupe.
Il a suscité un peu d'humour, mais en effet, c'était...
Là, il se passe quelque chose. Il y a une petite étincelle, quand même. Mais dans l'ensemble...
En fait, le problème que j'ai, c'est que l'image est humoristique. J'aime bien l'image de Garfield qui a les pieds dans la soupe de John. Ça me fait rire, tu vois.
Ouais, c'est accrocheur.
Mais... la phrase la soupe est froide, c'est pas le problème de l'image, tu vois. Genre, c'est pas qu'elle soit froide, le problème c'est qu'il marche dedans, tu vois.
Ouais.
Donc en effet, grosse, ça marche pas, ça fonctionne pas.
Il y a une grosse déconnexion et je crois que tu commences à entrer dans le gras des problèmes avec les couvertures de Garfield. Voici une qui m'énerve particulièrement.
OK.
Garfield dur de la feuille. Garfield dur de la feuille. Qu'est-ce qu'il y a en illustration? Est-ce que tu peux le décrire?
Alors, c'est Garfield qui a un bureau. Alors, déjà, j'ai jamais vu Garfield qui avait devant un bureau.
Ouais, il travaille pas. Littéralement, c'est le seul, c'est un point d'intérêt du personnage.
Ouais,
il travaille jamais.
C'est un feignard.
Il est gros, il est feignant.
Donc, j'imagine que c'est peut-être aussi relié à ça, du coup. Mais il a pas de papier, c'est un chat. Donc,
sur la couverture.
Voilà, il a une énorme pile de papier. Comme si, genre, il avait un travail et qu'il travaillait pas assez. Du coup, il avait, genre, une pile de paperasse qui était en attente et il nous regarde d'une façon, genre, c'est chiant, les gars, hein. Genre, ils nous regardent d'une façon désabusée, je dirais, voilà.
Du coup, le titre, Garfield, dur de la feuille.
De la feuille. Et encore une fois, très très, ouais.
Je suis assez excédé par ça.
Difficilement reliable avec le machin, ouais.
Difficilement reliable.
C'est pas un sketch, le fait qu'il fasse pas de la paperasse, Garfield, jamais, hein.
Une autre.
Oh,
celui-là, c'est un carnage. C'est un carnage.
Garfield fait feu de tout bois et il est en train
Il est en combinaison de plongée. Ouais. Avec un sac de campeur sur le dos.
Ouais.
Un ballon de rugby sous le bras.
Ouais.
Et il est en train de faire cuire une saucisse sur un feu de bois.
Absolument zéro sens. Du coup, tu dis c'est quoi sens. C'est Garfield en vacances. Il fait feu de tout bois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Encore une fois, une expression. Et du coup, vu qu'il brûle une saucisse, on se dit bon bah voilà quoi.
Ça clairement esprit.
Oh, bah, moi c'est la plus énervante pour celui-là, moi c'est la plus début.
Il est corsé celui-là.
Ah putain, je l'aime vraiment pas celle-là. Ouais.
Tu vas voir, tu vois. C'est pas fini. Garfield, je suis beau. Garfield, personnage assez avec un gros ventre en général.
Ouais.
Qui se regarde dans un miroir déformant et qui a l'air d'être musclé.
Bah, okay. Est-ce que c'est quelqu'un de genre particulièrement genre superficiel, Garfield? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait attention à son image de lui-même?
Pour le coup, je pense que avant l'ISO, je pense que Garfield c'est le premier gros personnage de la Fat Pride, genre
body positif.
Body positif, il était heureux d'être fat.
Ouais, il a jamais eu de problème de genre ah, il faut que je fasse du sport, je deviens trop gros, genre c'est John à la limite pourrait lui imposer ce genre de carcan parce que c'est un putain de connard, tu vois. Et il pourrait lui imposer ce genre de carcan physique en lui disant hey, tu gagnes du poids. C'est possible qu'il ait déjà mis John Garfield en régime, par exemple. Je suis pas un expert en Garfield, mais ça m'étonnerait pas, tu vois.
À 100%. Ouais. Garfield est très souvent en régime.
Ouais.
Il a pas envie d'être au régime.
Ouais, à cause de John. Et du coup, le fait qu'il soit genre souriant devant un espèce de miroir déformant parce qu'il est content d'avoir l'air baraqué, non-sens. Total.
C'est extrêmement problématique. J'aime extrêmement problématique.
Je déteste. Oh. Ah mais c'est vraiment de pire en pire. Hein.
C'est vraiment de pire en pire. Hein,
Garfield n'est pas un cadeau.
Garfield n'est pas un cadeau. Alors, j'arrive même pas à voir le lien en fait, parce que Garfield visiblement
il vient
de faire du shopping. Voilà. Il a plein de sacs.
Donc c'est pas, il fait pas des cadeaux, il a fait du shopping.
Ouais donc il y a pas, effectivement il y a pas de cadeau.
Il y a pas de cadeau sur
Garfield n'est pas un cadeau. Ce qu'il a dans les bras, c'est pas des cadeaux.
Ouais, il y a rien qui est cadeau sur la.
Il y a pas de cadeau.
Il y a aucun lien avec les cadeaux.
Le titre est assez exact. Garfield n'est pas un cadeau.
Ouais, mais comme on pourrait dire Garfield n'est pas une tarte flambée, tu vois, genre
effectivement. Garfield n'est pas une fraiseuse.
Ouais, non.
Par exemple.
Absolument.
N'est pas
je suis d'accord
fraiseuse.
Avec ça. Ça me fait pas rire par contre.
Ça me fait pas rire non plus. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que.
Ah, les autres sont un petit peu plus.
Non, non, c'est encore n'importe quoi. Garfield a une idée géniale. Il dit un truc à Woody. Ok.
Oh putain.
Ok, on va finir là-dessus. Alors, Garfield, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand tu parles de Garfield?
C'est, il mange des lasagnes.
C'est un mangeur de lasagnes.
C'est un mangeur de lasagnes, ouais.
C'est aussi un chat.
C'est vrai. C'est un chat qui mange des lasagnes.
Et qui est gros.
Bah, du coup, oui.
J'ai même pas envie de...
On n'a pas envie de le dire, ce titre-là, ouais.
C'est trop déprimant, c'est trop déprimant. En cette période de morosité ambiante...
Non, vas-y, dis-le, Robin.
Garfield, le titre de l'album, c'est... Je suis un gros chat.
Et il fait quoi, du coup? Il fait...
Bah en fait, il est en face de sa pâtée. Il a la pâte mollement posée sur sa pâtée.
Ouais, mais il regarde sa pâtée. Ouais.
Il regarde même pas sa pâtée, genre, il a même pas faim.
Il a même pas faim, mais sa pâtée, genre, est remplie. C'est-à-dire que sa gamelle est remplie. Et si t'as déjà eu un chat dans ta vie, tu sais que quand sa pâtée est remplie, ce qu'il fait, c'est, genre, s'il est vraiment gros et gourmand, il va pas juste littéralement mettre sa pâte dessus et rien faire.
Non, ouais, il va.
Il va la dévorer en une demi-seconde.
Il va la dévorer, tout comme vous allez dévorer ce podcast dès que vous verrez apparaître dans ce feed.
Voilà. C'était un bonus hein, pour tous les hardcore.
Vous êtes nos auditeurs préférés, ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
Ouais. Allez, à l'année prochaine.
À la semaine prochaine. C'est ça, là.
À plus.
Emballé, c'est podé.
Jean-Louis Chotard, Gérard Grandjean. Sur une musique de Pierre Benichou et Marie Gropierre, Misère. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en.
Vous dérangez pas, j'ai l'habitude.